Studio Tamani, voici les informations en français.
Choisir ou ne pas choisir, c'est aussi choisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi les fréquences des radios partenaires de Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h à la Bizanga, dans le cercle de Ouattara. Les titres, entre 2024 et février 2025, le Mali a enregistré 376 incidents liés aux mines, faisant 17 victimes. C'est dans ce contexte qu'intervient aujourd'hui, 4 avril, la journée internationale de sensibilisation aux mines. Dans le cadre de Mali Culture 2025, une conférence sur la citoyenneté et les valeurs culturelles a eu lieu hier jeudi à l'université Yombo Welegem de Kabbalah. Objectif, inciter les étudiants à la découverte du pays. Les autorités scolaires réaménagent le programme scolaire pendant cette période de chaleur. Certains responsables d'école saluent la décision. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Ibrana Kilomega, la mise en onde Adiaratou Traoré. La journée internationale pour la sensibilisation aux mines est célébrée ce vendredi 4 avril 2025. À cette occasion, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, affiche son inquiétude face aux dégâts causés par les engins explosifs improvisés. Selon des chiffres fournis par l'unité de gestion des armes et des munitions, de 2024 à février 2025, 376 mines ont été enregistrées, faisant 17 victimes ciblées. Les régions du centre et du nord du pays sont les plus touchés par ces mines. Des membres de la société civile de ces zones alertent sur la situation. Pour plus de détails, suivons ce reportage d'Aïssa Tagara avec le concours de nos correspondants locaux.
En 2023, le jeune garçon Oumar Togo a perdu des membres de sa famille suite à l'explosion d'une mine au passage de l'air charrette au centre du Mali. Un événement qui l'a traumatisé à jamais.
Mon grand frère et mes quatre tantes avaient voyagé sur Mogué. Arrivés dans notre village, leur charrette est montée sur une mine. Ils sont tous morts. Depuis ce jour, je ne me suis pas rendu dans notre village. Je tremble de peur à chaque fois que je me rappelle de ça.
Dans les régions en proie à l'insécurité, les populations subissent les conséquences des mines sous plusieurs formes. Au-delà des dégâts matériels et des morts, elles mettent en mal l'économie locale, affirme Amadou Lougué, membre de la société civile de Badiangara.
Une fois que ça explose, on constate aussi la perte de vie en vie humaine. Des dégâts matériels sont constatés, constituent un frein au développement, amènent un coup dur pour la population. C'est l'économie qui est à terre, le trafic routier qui est bloqué.
Mori Kaba est chargé de protection au comité international de la Croix-Rouge. Selon lui, les engins explosifs improvisés entravent l'assistance que les humanitaires apportent aux populations.
Ces engins explosifs improvisés empêchent parfois ces communautés à accéder aux services sociaux de base. Ils entravent la fourniture de l'aide humanitaire qui est vitale pour des populations affectées, ralentissent aussi le processus de réconciliation.
Il faut signaler que le CICR sensibilise les populations avant et après un incident. Aussi, il s'implique dans la prise en charge sanitaire, physique et psychologique des victimes et facilite leur réinsertion sociale et professionnelle.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. La Confédération des États du Sahel et la Russie se sont convenus d'établir dans le domaine de la sécurité et de la défense un partenariat stratégique, pragmatique et solidaire. La décision a été prise hier à Moscou lors de la première session de consultation des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel AES et de la Fédération de Russie. Les parties ont exprimé leur engagement à intensifier la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes dans l'espace AES. La Russie s'est dit prête à apporter l'assistance technique nécessaire. Sur toute autre information, une conférence de presse intitulée « Citoyenneté et valeurs culturelles » s'est tenue hier jeudi à l'université Yombo Welegem de Kabbalah. C'est une initiative du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Selon les organisateurs, l'objectif de cette rencontre est d'encourager les étudiants à découvrir les différentes régions de leur pays. Koumafing Keita était sur place, suivant son reportage avec la voix de Juliette Koulibaly.
Fatoumata Koulibaly, la marraine du mois de mars et lauréate du prix du meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest, a exposé les valeurs sociétales du Mali devant une salle remplie d'étudiants. Selon elle, la construction d'un nouveau Mali dépend de l'importance accordée aux coutumes.
C'est étudier les leçons qui sont venues d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on soit ouvert envers les autres. Parce que quand on va se retrouver quelque part, il y aura de la concurrence. Mais il serait bien de connaître chez soi sa valeur culturelle.
Les étudiants enthousiasmés par la conférence souhaitent que de telles initiatives se multiplient dans le cadre de leur formation.
La culture est très importante dans la vie de l'être humain.
J'ai appris vraiment nos valeurs culturelles, surtout ethniques, les différences raciales.
La rencontre s'est terminée par la projection du film « La danse du singe » qui traite du conflit entre les conservateurs et ceux qui veulent s'ouvrir à la modernité. Cette conférence s'inscrit dans le projet Mali Culture 2025 du ministère de la Culture et de l'Artisanat.
Autre actualité, les syndicats de trois grands hôpitaux de Bamako ont suspendu leur arrêt de travail ce jeudi dans l'après-midi. Cela fait suite à la libération de leurs collègues arrêtés depuis quelques jours. L'arrêt de ce mouvement est venu à point nommé puisque les hôpitaux avaient décidé depuis mardi de ne pas prendre en marge, depuis mercredi, de ne pas prendre en charge de nouveaux patients. Les syndicats des banques et établissements financiers du Mali ont de son côté annoncé un arrêt de travail à partir du 17 avril prochain. Face à ce mouvement, l'universitaire Brema Mamadou Kone, docteur en sciences politiques, recommande le dialogue entre les parties concernées afin d'éviter la répétition des grèves en cette période difficile. Il est au téléphone par Moussa Agmahaha.
Les syndicats doivent revoir un peu leur stratégie. Vous avez des responsables de syndicats qui n'ont aucune doctrine du syndicalisme. Vous savez, l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital du Congé et l'hôpital du Mali sont des hôpitaux urgentistes de troisième génération. Je pense qu'on aurait pu mobiliser les moyens traditionnels de négociation et de dialogue pour trouver un consensus. Pour ce qui concerne le personnel des banques et établissements financiers, aller en grève dans cette période de récession économique est aussi une sorte de pénaliser les populations. Ça remet fondamentalement en cause le pacte de stabilité sociale qui a été signé par les organisations syndicales des travailleurs du Mali. Donc on ne fait pas pression à la justice par rapport à l'obtention de la libération de quelqu'un, mais il faut négocier.
Je l'annonçais dans les titres, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a instruit ce mercredi 2 avril un réaménagement des horaires dans les établissements de l'enseignement fondamental. Elle fixe la rentrée des classes à 8h et la descente à 12h30. Selon le directeur national, ce changement est dû à la canicule actuelle visant à préserver la santé des apprenants et des enseignants. Une décision saluée par certains responsables d'écoles publiques et privées. Ils sont au micro de Mohamed Aguerissa.
La mesure est la bienvenue parce que là où nous sommes maintenant, il fait très très chaud et les apprenants sont trop fatigués. Donc à partir de midi, donc rien ne rentre. Ils ne font que demander seulement pour aller boire de l'eau. Les enfants seront à l'aise et puis les facilitateurs aussi seront à l'aise. Si on parvient à en avoir dès aujourd'hui même, immédiatement, on est prêt à exécuter.
Ils ont donné le programme de 8h à 12h30. Moi je pense que ça, avec les programmes, ça ne suffit pas. Au moins, s'il faut aller vers 13h comme ça, donc ça va aller un peu.
On va se réunir pour voir fixer un emploi du temps pour le volume horaire sans que ça ne puisse toucher le temps d'apprentissage des enfants.
Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est même venu tard parce qu'il faisait très, très, très chaud.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Venons à présent au dossier de la semaine au Mali. Le chevet des nouveaux-nés sont au cœur de diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Koumafing Keïta a rencontré des spécialistes. Découvrons son reportage.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yakuba Dougouni, sociologue, explique « Les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant, ce qui explique le mystère qui les entoure. » Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux.
Vous savez, les cheveux, c'est des formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. La tête est rasée en fonction de ces lignes. Voilà, destinée à être riche et tout ça. Donc, on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, les premiers cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveaux-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et leur équivalent en or est donné à nous mondes, selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. On ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu qui sont les cheveux pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Mirana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. L'autisme reste un handicap méconnu du grand public malien. 1200 enfants sont atteints de ce trouble dans la capitale. L'autisme se manifeste par des troubles de la communication, des activités obsessionnelles, des comportements à caractère répétitif, expliquent des spécialistes de la santé. L'association des enfants autistes brosse un tableau sombre de la prise en charge à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. C'était ce 2 avril 2025. À cet effet, le thème choisi pour cette édition est l'implication de la famille et de la communauté dans la prise en charge et suivi des autistes pour un résultat plus efficace. Suivons le magazine Tous les enfants du Mali.
J'ai une fille de 10 ans, elle est autiste. J'ai remarqué son autisme depuis à l'âge de 1 an, parce que j'ai commencé depuis à partir de 1 an. On sent que les enfants peuvent dire « Maman, papa, tu l'appelles », elle ne fait pas de signes.
C'est le témoignage de Mme Nyangadou, Safiatou Nyangadou, mère d'un enfant autiste de 10 ans. Selon elle, les difficultés de communication de son enfant ont été des moments stressants pour elle. Elle mentionne aussi qu'il a fallu plusieurs consultations avant qu'on diagnostique la maladie chez son enfant en Tunisie.
Elle peut commencer ses crises, si elle s'énerve, elle peut commencer à crier, elle peut passer pendant une heure de temps, elle est en train de crier. Je ne sais pas, il y a des fois, je m'assois, je pleure, parce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'elle ne peut pas m'exprimer, même si elle a mal, elle ne peut pas dire « Maman, j'ai mal quelque part », elle ne peut pas me dire que j'ai faim, parce que moi, elle ne parle pas.
Si Mme Nyangadou a détecté l'autisme de son enfant à l'âge d'un an, Mme Diko Mariam Issa Diallo indique un diagnostic tardif de la maladie, car son enfant avait un développement normal. Elle décrit des troubles poignants provoqués par la maladie.
Donc c'est un enfant qui avait commencé à dire ses petits mots. 2 ans et demi, elle appelait les prénoms des gens. Mais à 3 ans, tout s'est arrêté. C'est là qu'elle a commencé à... Elle ne s'intéressait à personne. Elle évitait les gens. Elle s'asseyait seule dans son coin. L'enfant ne restait pas tranquille. Il bouge tout le temps. Il saute, ça monte, ça descend, ça court, ça casse tout. C'est des enfants aussi qui n'ont pas la notion de danger. Ils ne savent pas se mettre en sécurité. Même aujourd'hui, elle a 5 ans. Si elle sort dans la rue, elle se perd. Elle n'a pas de repère.
Ces troubles de comportement suscitent le rejet et la discrimination des autistes dans la société et dans les établissements scolaires. Madame Koïta Aminata Kamara est la directrice du centre Sésame. Ce centre accueille au moins 25 enfants autistes.
Vu leur état,
ils ne sont pas concentrés, ils ne s'assoient pas. Certains passent leur journée à crier, certains passent leur journée à courir. C'est la grande difficulté qu'on a.
La prise en charge de l'autisme s'effectue de façon pluridisciplinaire, d'où l'intervention des orthophonistes, psychiatres et psychologues. Demba Traoré, orthophoniste, nous explique le rôle de l'orthophonie dans cette prise en charge.
Après l'évaluation, il propose un diagnostic thérapeutique pour permettre de donner une prise en charge de qualité par rapport au langage et à la communication de cet enfant autiste.
S'occuper d'un autiste nécessite un besoin d'investissement humain, émotionnel et financier, note Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G.
Il y a l'incompréhension. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, ça va être extrêmement difficile. Avant que les parents ne comprennent exactement que c'est un problème, une maladie en tant que telle, les gens vont penser à beaucoup d'autres choses. Les démons, les possessions, on pense que l'enfant a été échangé, on pense que l'enfant va porter malheur à la famille.
Bandjougou Gueye est le président de l'association des enfants autistes d'Iguia. Il invite l'État à subventionner la prise en charge de l'autisme au Mali.
Il peut nous aider en aide pour que ces enfants-là puissent avoir leur autonomie, qui subventionne l'autisme parce que la prise en charge coûte cher, les médicaments coûtent cher. Un orthophoniste faut 11 000, 13 000 par heure. Un psychologue, 10 000 par heure, 4 séances par semaine, c'est trop. Donc s'il peut sponsoriser que ces choses-là peuvent être amenées jusqu'à 2 000 francs, ça va nous faire plaisir.
Afin de mieux accompagner les enfants autistes, les acteurs sollicitent une implication familiale et de la communauté.